Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Veillée d'armes. À Paris, la capitale se barricade. Édouard Philippe a reçu tout à l'heure une délégation de représentants des Gilets jaunes. Ils viennent tout juste de sortir de Matignon. On sera en direct dans un instant. On écoutera le message de fermeté adressé par le ministre de l'Intérieur aux casseurs. On donnera la parole également aux commerçants parisiens qui redoutent le pire pour demain. Et au préfet des Yvelines qui revient sur cette scène qui a choqué l'opinion publique. Cette dizaine de lycéens forcés à s'agenouiller par la police, les mains sur la tête. Ce ne sont pas des bisounours, dit-il. Il voulait casser du flic. Au sommaire également, Jonathan Daval en pleurs devant sa belle-mère. Il reconnaît avoir tué sa femme Alexia et implore son pardon. Et puis le début de la fin pour Angela Merkel. La CDU vient d'acter la nomination de son successeur et c'est une femme, une mini-Merkel d'après certains. Le Téléthon et ses formidables avancées pour soulager les patients atteints de maladies rares. Il faut continuer à donner, dit sa présidente. Et puis votre rendez-vous tous les soirs avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Loïc Latour, le directeur général de France Boisson.
Europe 1.
À la veille d'une journée que redoutent énormément les autorités, Édouard Philippe a donc reçu ce soir à Matignon une délégation de représentants des Gilets jaunes. Vous êtes sur place en direct, Pierre Herbulot, ils viennent tout juste de sortir.
Oui, absolument. 7 gilets jaunes qui ont pu s'entretenir pendant plus d'une heure et demie avec le Premier ministre Édouard Philippe, lui exposer notamment quelques revendications. L'un d'entre eux s'est dit à l'instant satisfait de la tournure de la discussion. On a l'impression d'avoir été entendu. La balle est maintenant dans le camp du président, a-t-il déclaré. Un entretien qui n'était pas prévu à l'agenda du Premier ministre. En fait, ce collectif de gilets jaunes libres, comme il s'appelle, ceux qui se sont exprimés la semaine dernière dans le journal du dimanche, eh bien, ces gilets jaunes ont demandé ce matin à être reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée. Impossible dans de tels délais, a répondu le président de la République, pas le Premier ministre. Une réunion organisée à la dernière minute, donc assez révélatrice de l'inquiétude de l'exécutif à quelques heures de la manifestation parisienne des gilets jaunes.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. Vous étiez donc en direct de Matignon où vient de se tenir cette réunion avec les gilets jaunes. Et alors que les autorités ont mis en place, vous le savez, un dispositif de sécurité inédit avec même des blindés de la gendarmerie et 89 000 forces de l'ordre mobilisées dans tout le pays, ce matin, le ministre de l'Intérieur a adressé un message de fermeté aux casseurs.
Je m'adresse aux casseurs qui, parmi les gilets jaunes, ont basculé dans la violence, comme aux professionnels de la violence qui se sont greffés au mouvement. Aux délinquants, aux criminels, nous opposerons la réponse la plus ferme. Mais je sais que ceux qui ont de la sympathie pour les gilets jaunes condamnent, comme nous tous, ces violences. À eux, je voudrais dire que tout sera mis en œuvre pour les défendre. Ces 3 dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Et ils sont nombreux. Maintenant, place à la République, place à nos valeurs, place au respect du droit, place au dialogue et à la réconciliation, place à la paix et à la protection. Ce sera tout le sens de notre mobilisation pour demain.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au micro Europe 1 de Guillaume Bié. Alors à quoi faut-il s'attendre demain? Impossible de le dire, bien sûr. En tout cas, en prévision de cette journée à très haut risque, la plupart des grands musées parisiens, le Louvre, le Quai Branly, le musée d'Orsay ou encore la fondation Louis Vuitton resteront fermés. Plusieurs théâtres également, fermeture aussi de l'opéra, de la comédie française. Des lieux culturels seront également fermés à Bordeaux. Et pas la peine d'espérer vous rabattre sur le shopping puisque les grands magasins, traditionnellement pris d'assaut en cette période de Noël, ont préféré ne pas ouvrir. Des commerçants qui, toute la journée, se sont barricadés, Jean-Gabriel Bourgeois.
Place Saint-Augustin, on ne veut pas revivre ce qui s'est passé samedi dernier. Voitures incendiées, vitrines brisées. Une agence bancaire est encore recouverte de panneaux de bois, tout comme le Monoprix juste en face. Fabienne gère un café sur la place et demain, elle va fermer.
Nous avons enlevé la terrasse, on va fermer. C'était un peu chaud ici. Oui. Ils ont tout prévu, ils ont enlevé les grilles des arbres. Ils enlèvent les scooters, ils enlèvent les motos. Maintenant, il y a un risque, bien sûr, un gros risque même.
À côté, Max tient un bureau de tabac. Il préfère baisser son rideau en fer et il va même ranger toute sa marchandise en lieu sûr.
C'est clair que je vais tout ranger. Tout ce que vous voyez là sur les présentoirs, ça ne sera pas là d'ici ce soir. Et je reviendrai dimanche pour tout remettre en place.
Un peu plus bas sur le boulevard Haussmann, près des vitrines des grands magasins, on s'interroge encore. À 2 semaines de Noël, le manque à gagner continuerait d'être impacté. Nordine préfère ouvrir son restaurant, quitte à fermer plus tôt comme la semaine dernière. dernière.
S'il y a vraiment du monde où il y a les casseurs, alors c'est mieux de fermer, d'avoir des casses, des blessés surtout.
Et par mesure de précaution, le printemps et les galeries Lafayette seront fermées demain.
Le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois dans le 9e arrondissement de Paris, la capitale où 36 stations de métro et de RER seront fermées demain. Les Vélib, les vélos en libre service, sont par ailleurs en train d'être retirés. Et toujours pour éviter le pire, plus d'une vingtaine de préfectures ont annoncé qu'elles interdisaient temporairement la vente et le transport de carburant, d'engins pyrotechniques ou de produits inflammables. Les hôpitaux mettent en place quant à eux un dispositif de vigilance renforcé. Côté sportif, le match entre la France et la Suède à l'Euro féminin de handball qui devait avoir lieu demain est reporté à dimanche. Il devait se jouer à Nantes. On rappelle que la Ligue 1 est également très impactée. Beaucoup de matchs sont reportés. Le préfet de la Haute-Loire fait quant à lui part de ses inquiétudes. Il évoque des menaces parmi les groupes de gilets jaunes les plus radicalisés qui appellent, selon lui, à venir finir le travail à la préfecture du Puy-en-Velay qui avait été incendiée le week-end dernier. Préfecture où s'est d'ailleurs rendu Emmanuel Macron cette semaine. En tout cas, ce possible samedi noir inquiète, y compris au-delà de nos frontières. Plusieurs pays européens conseillent la prudence à leurs ressortissants. Certains incitent carrément à remettre à plus tard les visites dans la capitale française. La République tchèque, par exemple, demande à ses citoyens de ne pas voyager à Paris, seulement si c'est absolument nécessaire. Le Portugal également. Et puis à Bruxelles, le ministère des Affaires étrangères va encore plus loin. Il recommande sur son site internet aux Belges de reporter leur séjour. Et ceux qui ne pourraient pas le faire sont exhortés à prendre des mesures de précaution. Pour Jean-Pierre Chevènement, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce soir sur Europe 1, ce mouvement des Gilets jaunes symbolise une crise de la démocratie et il illustre la coupure entre les élites et les classes populaires. Puis vous savez qu'il y a cette autre mobilisation désormais, celle des lycéens, avec un climat toujours extrêmement tendu. Ce vendredi, des centaines d'établissements perturbés, de nouveaux débordements comme à Mulhouse, où deux policiers ont été blessés lors d'une manifestation en centre-ville. Alors que les images de l'interpellation de plusieurs dizaines de jeunes hier à Mantes-la-Jolie, obligés de s'agenouiller les mains derrière la tête, ont suscité beaucoup d'émotions. D'ailleurs, aujourd'hui, un peu partout, on a vu des lycéens défiler justement avec les mains derrière la tête. Le ministre de l'Éducation a reçu ce matin une délégation de parents d'élèves, Jean-Michel Blanquer, qui s'est dit choqué par ces images, mais qui a aussi invoqué le climat de violence exceptionnel, ce que confirme le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault.
C'est pas les bisounours, hein. C'était une volonté d'en découdre, casser du flic, faire griller des bagnoles. Et je rappelle que la veille, certains s'étaient introduits dans un pavillon et piqué une bonbonne de gaz et étaient prêts à faire sauter les affaires. Donc on n'est pas dans un contexte de jolie pâquerette et de Gardarem ou Larzac. Hein. C'est un peu autre chose. Et je répète que ça n'a donné lieu à aucune plainte, aucune écorchure, aucune blessure. Que les plus disaires donneurs de leçons nous expliquent et aillent expliquer dans les cours pour les gendarmes et les policiers comment on fait en pareil cas.
Le préfet des Yvelines au micro Europe 1 de Virginie Salmen. Aujourd'hui, la CGT et FO Routier ont retiré leur appel à la grève à partir de dimanche. En revanche, cet après-midi, la CGT Cheminot a, elle, lancé un appel à la grève pour vendredi prochain. À la SNCF et à la RATP, elle réclame une hausse immédiate des salaires et des pensions. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de votre journal. Jonathan Daval a craqué. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal avec les nouveaux aveux de Jonathan Daval. Oui, il a bien tué sa femme. Arthur Elmbaché, vous êtes au palais de justice de Besançon. Jonathan Daval a craqué à l'occasion d'une confrontation avec la mère d'Alexia.
Et pour prendre, Isabelle, la mesure de l'intensité de la scène, imaginez les gardiens de l'administration pénitentiaire qui pleurent dans le bureau du juge, les mouchoirs qui circulent entre avocats. À ce moment-là, Jonathan Daval est à genoux, en larmes, il craque, il demande pardon aux pieds de la mère d'Alexia, Isabelle Foyot.
Tu avais amené une photo d'Alexia et c'est ce qui a permis de déclencher la vérité. En ayant bien insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant 10 ans, que c'était notre fils, qu'on l'a toujours aimé et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni dans lequel il était.
Juge d'instruction, procureur, greffier, avocat, à ce moment-là, tout le monde était anéanti, nous dit après coup Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval.
Je n'avais jamais vu une partie civile se lever, prendre dans ses bras l'accuser et le serrer dans ses bras pour le remercier d'avoir enfin dit la vérité à la famille, de leur permettre enfin de retrouver une certaine paix intérieure.
Jonathan Daval, Isabelle, est donc revenu à sa version précédente. Une dispute qui tourne mal, une bagarre et Alexia qui meurt, dit-il, par accident. Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, fait partie des rares personnes qui avaient décidé de croire le dernier scénario imaginé par son fils. Elle était effondrée ce soir devant le palais de justice.
Je ne sais pas, ça fait mal. Je sais plus. Je peux pas y croire, j'ai du mal à y croire. C'est pas possible.
Au même moment, sur le trottoir d'en face, Grégory Gay serre sa femme et son avocat dans ses bras. Il s'en va soulagé. Son beau-frère, Jonathan Daval, ne l'accuse plus ce soir d'être le meurtrier d'Alexia.
Merci Arthur Elmbaché au palais de justice de Besançon. Nordal Lelandais a lui été mis en examen pour la quatrième fois aujourd'hui. L'assassin présumé de la petite Maëlys et du caporal Noyer est accusé cette fois d'agression sexuelle sur sa filleule âgée de 4 ans. Des vidéos ont été retrouvées sur son téléphone portable. Et puis une page s'est tournée ce soir en Allemagne. Angela Merkel vient de céder son trône et de rendre son poste de présidente de la CDU qu'elle occupait depuis maintenant 18 ans. Hélène Kohl, vous êtes à Hambourg où se tient ce congrès. C'est donc pour la chancelière, Hélène, le début d'un retrait progressif de la vie politique.
Oui, et on sent bien ici que l'on vit un moment historique. Le dernier discours d'Angela Merkel à ses troupes ce matin a été empreint d'une rare émotion et c'est les yeux brillants qu'elle a reçu l'ovation des délégués du Congrès pendant près de 10 minutes. Beaucoup d'hommages pour celle qui a mené au total 72 campagnes électorales pour la CDU depuis l'an 2000. Mais les derniers revers électoraux et l'impopularité de sa majorité ont écorné son autorité au cours des derniers mois. Elle était contestée, y compris en interne. Alors, elle reste chancelière, mais vu la fragilité de sa coalition, il était grand temps qu'elle organise sa succession. Épreuve qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite à l'issue d'une primaire extrêmement serrée. C'est sa favorite qui vient cet après-midi d'être désignée présidente de la CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est un nom compliqué à prononcer aussi pour les Allemands. Alors la Sarroise de 56 ans accepte volontiers qu'on l'appelle par ses initiales AKK. Voici les trois lettres qu'il faut désormais retenir, les trois lettres qui vont désormais compter en Allemagne et en Europe, car AKK est en pole position pour être la prochaine chancelière au plus tard dans 3 ans.
Et comme on ne redoute rien, on va quand même tenter de s'entraîner à prononcer son nom, Annegret Kramp-Karrenbauer. C'est quand même plus beau que AKK. Merci Hélène Kohl, vous étiez donc en direct d'Hambourg. Et puis c'est le coup d'envoi ce soir du Téléthon, quelque peu perturbé lui aussi cette année par le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant pour Laurence Thiénot-Hermant, la présidente de l'AFM, il ne faut surtout pas baisser la garde, car le Téléthon a déjà permis d'énormes avancées pour lutter contre ces maladies génétiques rares et lourdement invalidantes.
C'est un vrai virage parce que des thérapies innovantes comme la thérapie génique qu'on a vraiment portée de façon extrêmement importante, puissante, parfois contre vents et marées. Et là, on voit la concrétisation. En plus, on le voit même sur des maladies neuromusculaires, des myopathies pour lesquelles on se disait que jamais ça marcherait. Et là, ça commence à marcher. Donc, c'est vraiment un moment important. C'est des enfants qui ont enfin un avenir. C'est des enfants qui ne sont plus condamnés pour ceux qui ont pu être traités et qui sont plus branchés à une machine 24 heures sur 24 pour pouvoir respirer. On sait que la France du Téléthon, c'est une France solidaire, une France généreuse. Et on compte sur cette France solidaire et généreuse qui sera, à n'en pas douter, au rendez-vous du Téléthon.
La présidente de l'AFM au micro, Europe 1 de Mélanie Gomez, on rappelle le numéro pour vos dons, le 36 37 36 37, et déjà 3 449 000 euros récoltés ce soir. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Alors quel temps, Valérie, pour notre week-end?
Eh bien demain, Isabelle, la perturbation d'aujourd'hui se sera évacuée par les frontières de l'Est après avoir donné beaucoup de neige cette nuit à moyenne altitude sur les massifs et notamment sur les Alpes. Le ciel de traîne qui va s'installer partout va rester maussade avec un risque d'averse très présent et des vents violents sur toute la moitié nord. Le ciel sera beaucoup plus clair de la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA. Dimanche, la journée sera quasi la même que celle de demain sous une perturbation qui va se retrouver à la mi-journée des Pyrénées au Grand Est avec des précipitations soutenues près des reliefs. La neige va tomber en abondance sur le Jura et les Alpes au-dessus de 1200 mètres et la vallée du Rhône et les bords de la Méditerranée devraient rester au sec sous le soleil grâce au vent qui va souffler fort jusqu'à 110 km/h. Les températures du matin entre moins 1 à Embrun et 11 à Cherbourg, celles de l'après-midi entre 8 à Langres et 18 à Nice.
La météo, signée Valérie Darmon sur Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Loïc Latour, le directeur général de France Boisson. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
À 22h17, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Alors le pessimisme est de retour ce soir à Wall Street.
Oui, ça tangue encore beaucoup ce soir pour les marchés américains. Le Dow Jones chute de 2,14%, 24 389 points. Et le Nasdaq de 3,05%, 6 969 points. Les marchés sont en forte baisse malgré la progression du pétrole. L'OPEP et ses alliés Russie en tête ont trouvé un accord pour diminuer leur production aujourd'hui à Vienne. Alors c'était une décision très attendue. Elle permet au baril de brut léger américain de bondir de 2,2%. On est à $52,61. Mais ça n'efface pas le fameux dossier commercial qui pèse toujours sur le moral des investisseurs, malgré les efforts de Donald Trump et de la Chine pour essayer de rassurer. Ce soir, la plupart des secteurs sont lourdement sanctionnés. Les technologiques, avec une chute de 3,6% pour Apple. Les industriels aussi, moins 3,7% par exemple pour Caterpillar. Les banques aussi ont souffert, moins 2,3% pour Goldman Sachs. Côté devise, le dollar recule après des chiffres décevants pour l'emploi américain qui relance les spéculations sur une pause dans les hausses de taux de la Fed. Et du coup, l'euro gagne 0,3% et repasse la barre de $1,14.
Le marché parisien, lui, termine la semaine dans le vert après une séance, on le sait, qui a été très difficile hier.
Oui, le CAC 40 rebondit après sa chute de plus de 3% hier. Il reprend 0,68% et il termine la semaine à 4813 points. Le bilan hebdomadaire reste largement négatif puisque le CAC 40 perd 3,8% sur les 5 dernières séances. Les valeurs pétrolières ont profité de l'accord à Vienne des pays de l'OPEP. Total gagne 1,6%. Vallourec plus 1,8%. Et puis Airbus s'adjuge 0,5% après un beau contrat. Avolon, la société de leasing basée à Dublin, va commander 100 appareils de la famille A320. C'est un contrat évalué à plus de $11 milliards.
Les valeurs financières, elles, ont terminé en baisse claire.
Avec un titre en repli de 1,3% pour l'assureur AXA. BNP Paribas perd 0,4%, suivi de Crédit Agricole et de Société Générale. Et puis ST Microelectronics, particulièrement chahuté cette semaine dans ce contexte de tension commerciale, ne parvient pas à rebondir et perd encore 1,2%. Ailleurs, en Europe, les indices sont terminés dans le désordre. Londres bondit de 1,1%, mais Francfort perd 0,2%. Bruxelles et Madrid gagnent 0,6%. Zurich plus 0,9%. Amsterdam plus 1%. Milan plus 0,5%. Et le CAC 40 s'adjuge 0,7%, 4813 points.
Merci pour ce tour d'horizon détaillé. Claire Lemaître de boursier.com. Et à 22h20, il est temps de retrouver Emmanuel Dutheil et son invité ce soir, le directeur général de France Boissons.
Bonsoir Loïc Latour.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de France Boissons. Alors, ce n'est pas obligatoirement l'organisme le plus connu, mais c'est vous qui distribuez les boissons que l'on peut boire dans la plupart des cafés, hôtels, restaurants que l'on peut trouver un petit peu partout en France. Si on a eu envie de vous inviter, c'est notamment en lien avec cette crise des gilets jaunes. Est-ce que déjà, tout premier point, vous arrivez aujourd'hui toujours à approvisionner à peu près correctement tous vos clients?
Écoutez, à date, on doit reconnaître que à la fois les approvisionnements de marchandises et nos capacités de livrer nos clients ne sont pas challengés. Donc, oui. On a une continuité des affaires qui existent, même si la situation pourrait être plus difficile, mais on ne le constate pas dans nos faits et dans notre réalité d'entreprise pour le moment.
Est-ce qu'en revanche, vous voyez que du côté de vos clients, on vous commande en ce moment un petit peu moins de boissons parce que l'activité est moins bonne avec tous les mouvements que l'on a pu connaître? Alors, on le voit très clairement en Île-de-France, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des blocages un petit peu partout en France.
Alors, on est un acteur qui livre plus de 50 000 clients sur l'ensemble du territoire national, dont 32 000 clients CHR, café, hôtel, restaurant. Donc, mesurer un impact localisé sur un territoire national, on ne voit rien d'émerger de majeur, même si on sait que certains de nos clients peuvent être en difficulté. Même si on peut supposer que l'ambiance n'est pas à l'envi de la festivité ou des sorties sur un établissement CHR en ce moment.
Alors, si on avait eu envie de vous inviter, c'est que vous êtes, je trouve, totalement dans la tonalité de ce que réclament les Gilets jaunes, c'est-à-dire de se dire il faut redynamiser les petites villes, il faut ne pas considérer que tout se passe dans les grandes métropoles, et avec une sorte de cri d'alarme, de dire ne nous oubliez pas. Vous, justement, l'année dernière, du côté de France Boissons, vous aviez lancé une idée pour redynamiser tous ces centres et pour faire un appel avec les maires pour réinstaller des cafés. Alors, ça s'appelait semblait une chance pour nos territoires. Un an après, où est-ce qu'on en est ?
Bah écoutez, tout à fait. En fait, France Boisson opère sur l'ensemble du territoire. Donc, ça veut dire qu'on est à la fois dans des livraisons dans les villes, dans les zones périurbaines et aussi dans les zones rurales. Donc, effectivement, notre objectif est aussi de défendre notre écosystème. On opère dans ce type d'activité. Et il faut bien reconnaître que les cafés de village ont été en difficulté ces dernières années. Bon, déjà, chiffres un peu nationaux, 200 000 cafés dans les années 60, il en existe aujourd'hui 35 000. Donc, on voit bien les difficultés de ce métier-là. Et il y a une désertification. La désertification des campagnes a effectivement affecté ce type d'activité. Aujourd'hui, un chiffre important à partager avec vous, un maire sur quatre aujourd'hui en place, qui est à la tête de sa mairie, a vu son café de village fermé. Et c'est d'autant plus à noter que si on interroge les mêmes établissements de ces villages, 88% des habitants souhaiteraient qu'on réouvre ce café de village. Donc il nous est apparu important de se saisir de cette cause. On sait qu'on ne fera pas tout, mais en fait le plus important c'est de faire des choses concrètes et d'être un porte-voix.
Donc justement, de façon concrète, un an après cet appel que vous aviez lancé au moment du Salon des maires de France, qu'est-ce que l'on peut déjà voir de nouveau ? Qu'est-ce qui a potentiellement changé ?
Alors concrètement, très simple, nous avions, dans les mesures que nous proposions dans le livre blanc, nous avons proposé d'accompagner les maires sur la réouverture ou la réactivation de cafés de village. Donc on en a à date signé 10. Il y a 10 mairies qui nous ont sollicité pour les accompagner pendant la réouverture de leur établissement. Alors on les accompagne par une offre qui s'appelle Service en tête territoire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on met dans cette offre ? Première chose, aider le maire à trouver des patrons d'établissement, des gérants, un couple qui veut s'installer au village, des professionnels, parce que les maires ont besoin d'être accompagnés sur ce sujet-là. Ils ne sont pas des experts de ce type de gestion d'affaires. Donc ça, c'est notre expertise. La deuxième chose qu'on propose concrètement dans cette offre Service en tête territoire, c'est de travailler l'offre. Il faut avoir l'offre qui correspond au village. C'est ensuite de mettre à disposition du matériel. Quand on a un café, la machine à café, le tirage pression, bière, c'est important. Donc, on met à disposition. Et puis, l'autre élément tout aussi important, c'est de savoir accompagner les nouveaux patrons d'établissement. Donc, on a des conseillers services en tête qui ont
été... Et là, sur ces 10, ils sont ouverts déjà ?
Oui, alors on en a 7 et on en a 3 qui sont en signature. Là, on en a 7 ouverts.
Et ça marche ? Oui, c'est 7 qui sont ouverts ?
Ah oui, oui, ils sont toujours là. On vient d'en signer un dixième en Charente, où on va accompagner une commune pour réouvrir son village. Et c'est l'occasion de bien échanger aussi avec les mairies. Parce qu'il faut que les mairies, les pouvoirs publics, en tout cas le pouvoir public dans un petit village chez le maire, fassent aussi des efforts. Donc,
vous avez l'impression que justement, peut-être que ces dernières années, faute de moyens, ces maires se sont dit « Bon, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Les commerces vont fermer, le café de la place de la mairie ferme. » Et se disent aujourd'hui « On est allé trop loin, on a lâché justement ces petites villes. » Vous entendez cette musique du côté des municipalités ?
Oui, je crois qu'il y a la musique de la conscience du besoin du mieux vivre ensemble aujourd'hui, du lien social, que le café est un élément important du lien social. Et cette conscience se développe. On le voit, et les questions d'être présent avec une activité de commerce dans les territoires et un village est en train de se développer énormément. Alors après, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi... Un café, c'est comme une affaire. Il faut que ça soit pérenne.
Bien sûr.
Il faut que,
plus que jamais,
que ça puisse faire vivre quelqu'un.
C'est un café et plein d'autres choses, puisque quand on rouvre le café, ça peut être aussi le relais colis, ça peut-être être demain des endroits où il peut y avoir des services publics, peut-être qui peuvent aussi être là. C'est ça l'idée, ça doit redevenir finalement le lieu de vie comme on l'avait connu à l'époque.
Le café du futur dans un village, c'est le café multiservice. C'est le café qui peut faire bar, qui fait dépôt de pain, qui fait relais colis, etc. Ce qui est intéressant aujourd'hui, on parle beaucoup de fracture numérique. Aujourd'hui, le digital, Internet est une chance pour les zones rurales aussi. Ça donne accès à des produits. Mais il faut savoir l'accompagner par un relais colis, par exemple, savoir réceptionner effectivement un endroit pour réceptionner, voire même accompagner certains habitants dans la capacité à avoir accès à Internet, etc.
Vous disiez que vous en avez signé 10. Aujourd'hui, vous avez accompagné 10 projets. Vous sentez qu'il y a une forme d'accélération où malgré tout, c'est très très lent et c'est très très dur parce que, économiquement parlant, c'est aussi compliqué de trouver la solution.
Oui, alors, on a l'ambition avec humilité. Ce n'est pas France Boisson qui va réactiver tous les cafés de village aussi, mais c'est aussi une chambre d'écho. c'est l'occasion de parler, c'est l'occasion que vous me donnez aujourd'hui d'ailleurs, d'alerter là-dessus, le café de village en tant que maintien au village, café de lien social, comment mieux vivre ensemble aujourd'hui, etc. C'est un élément important. Donc on voit qu'on a une écoute, qu'on a les échos sur ce sujet-là, et c'est en fait c'est ce qui nous importe chez France Boisson.
Eh bien merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Loïc Latour, qui est donc à la tête de France Boisson, était notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1. Très bon week-end.
À lundi, très bon week-end Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de... Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Alerte jaune, titre Libération qui, comme tous vos journaux d'ailleurs, évidemment, s'inquiète de l'ampleur de la mobilisation de demain, là où d'autres parlent plutôt d'alerte rouge, avec dans Libération un décryptage du dispositif de sécurité sans précédent, mais aussi l'analyse politique de la situation, Emmanuel Macron face à un déferlement de haine. Du reportage également, Libération a passé une semaine en Seine-et-Marne aux côtés des Gilets jaunes, et puis un panorama de cette colère française vue de l'étranger. Dans le journal Les Échos, Henri Gibier nous emmène quant à lui de l'autre côté du Rhin et il tire son chapeau à Angela Merkel, la chancelière qui présidait la CDU depuis 18 ans et qui aujourd'hui a cédé la main, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Et c'est une femme qui a été élue à sa place, elle n'était pas favorite mais finalement, Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 ans, a battu Friedrich Merz pour la chancelière. C'est un succès majeur, elle qui avait choisi comme dauphine celle que l'on surnomme AKK pour contourner l'obstacle de son nom à rallonge. La longue standing ovation avec laquelle sa formation l'a accueillie à l'ouverture du congrès a montré que, malgré ses déboires politiques des derniers temps, elle restait immensément populaire chez les militants. Et puis sur le plan européen, qui nous intéresse surtout, nous Français, la ligne Merkel, prudente mais résolue à aller plus loin dans l'intégration de l'Union, comme le souhaite Emmanuel Macron, est confortée par cette élection. Chapeau donc Angela Merkel qui réussit, après presque 20 ans de règne sur son camp et 12 ans à la tête de l'Allemagne, à imposer une de ses alliées les plus fidèles à sa succession. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon rapide des unes de la presse demain que vous retrouverez dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute d'Europe 1, vous êtes en compagnie de Sabine Davion pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle. Alors Davion, c'était un nom d'il y a très longtemps avant que je n'épouse un monsieur Marin.
Oh Sabine Marin, pardon.
C'est pas grave.
Oui, oui, c'est vrai. C'est quand même un petit peu votre nom.
Ça fait beaucoup rire nos amis l'aéronaval. À tout à l'heure Isabelle, on se retrouve dans une demi-heure.